On va raccrocher. Obliger les chômeurs donc à accepter n'importe quel travail, c'était déjà l'un des objectifs explicites des lois Hartz, donc mises en place en Allemagne par le social-démocrate Schröder. Ce dispositif fait que plusieurs dizaines de milliers de travailleurs, licenciés de leur emploi, ont été réembauchés dans la même entreprise, sur le même poste, mais en intérim, et avec un salaire amputé de 500 ou 600 euros. Viendront ensuite, pour l'extrême droite, les lois, puis les matraques contre les travailleurs qui feront grève contre telle ou telle dégradation de leurs conditions de travail exigées par les patrons sous le prétexte de la crise. Déjà, le FN annonce la couleur quand il écrit dans son programme « Les manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins seront interdites ». Nous n'en sommes certes pas encore là aujourd'hui. Bien sûr, la crise pèse de tout son poids sur le niveau des salaires et contraint déjà des travailleurs à accepter les conditions de travail souvent pires que les précédentes. Bien sûr, les lois comme la très mal nommée « sécurisation de l'emploi », l'ANI, adoptée en France en avril 2013 sous l'égide du gouvernement Hollande-Hérault, ou les lois Hartz en Allemagne, aggravent la flexibilité et la précarité de tous. Mais comme par le passé, pour occuper les emplois les plus durs, avec les salaires les plus bas, le patronat a besoin d'exploiter les travailleurs immigrés. C'est ce qu'exprimait crûment André Daguin, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, en 2007. Sortant d'une rencontre au ministère de l'Intérieur sur l'organisation de l'immigration pour motifs professionnels, il déclarait « Il nous manque 50 000 mecs. Certes, on pourrait taper dans le tas des chômeurs, mais les mecs ne veulent pas se mettre dans la tête qu'on mène une vie à l'envers dans nos métiers. On travaille quand les autres se reposent. La moitié des mecs ne peuvent pas le supporter. » Eh oui, ils le disent eux-mêmes. Si les patrons de l'hôtellerie et de la restauration, comme ceux du BTP, ont du mal à trouver du personnel, comme ils le répètent en boucle, c'est parce que les conditions de travail y sont exécrables. Et c'est pourquoi ils embauchent des immigrés. Entre 20 et 30% des ouvriers du bâtiment ou de la confection, des employés des hôtels ou de la restauration, du gardiennage ou de la sécurité, sont des immigrés. Et s'ils n'en trouvent pas assez sur le marché légal du travail, les patrons embauchent des sans-papiers. Ce même Daguin fut confronté en 2008 et 2009 à la grève des travailleurs sans-papiers de la région parisienne. Ces grévistes qui proclamaient « On bosse ici, on vit ici, on reste ici ». Ils occupèrent pendant des semaines leur lieu de travail pour obtenir une carte de séjour. Daguin s'est senti obligé de déclarer sur RTL « Humainement, il faut que les gens qui travaillent chez nous, qui sont déclarés par leur patron, qui paient leurs impôts, à qui la sécurité sociale a pris des sous, des cotisations, cela, il faut les régulariser. » Parce que la grève touchait ses patrons au portefeuille, il se découvrait soudain une parcelle d'humanité. Cette grève contagieuse, dont l'évolution fut suivie aussi bien dans les foyers d'immigrants parisiens que dans certains villages du Mali, a fait sortir de l'ombre quelques 5000 travailleurs, embauchés depuis des années par des patrons parfaitement au courant de leur situation administrative. Elle a rendu public qu'on peut payer des impôts, cotiser pour la sécurité sociale et être clandestin. Les patrons utilisent justement cette illégalité pour imposer des heures supplémentaires non payées et des salaires minimaux. Pour ne prendre qu'un seul exemple, un des animateurs de la grève était arrivé à Marseille en 2005 depuis la Mauritanie, caché dans un bateau commercial. Débouté du droit d'asile, il a travaillé en intérim pour Adia avec de faux papiers. L'agence d'intérim était parfaitement au courant que sa carte était fausse. Elle s'en servait dès qu'il revendiquait. Entre deux missions, il suivait des formations, mais il n'a jamais été augmenté. En 2007, arrêté par la police, il a passé 30 jours en rétention, à la suite de quoi l'agence d'intérim a rompu son contrat. C'est ce qui le décida à se mettre en grève. Les employeurs des travailleurs sans papier sont parfois des petits margoulins, prestataires de services pour les plus gros, dans le nettoyage ou la sécurité. Mais ce sont aussi de grandes sociétés comme KFC ou Buffalo Grill, dont 15% des employés étaient sans papier avant la grève. Ou les grands du BTP, Vinci, Bouygues, Eiffage, qui pratiquent la sous-traitance en cascade sur tous leurs chantiers, ce qui leur permet d'embaucher des sans-papiers tout en se lavant les mains des conséquences. Ce sont eux qui trichent avec la loi, mais ce sont les travailleurs qui sont sanctionnés. Quand 30 000 travailleurs sont expulsés chaque année, faute de titre de séjour en règle, moins de 1 500 employeurs sont mis en cause pour infraction constatée d'emploi d'étrangers sans titre de séjour. Quand ils sont condamnés, ce qui est rare, ils paient parfois une amende. Mais eux ne sont jamais expulsés. La grève des travailleurs sans papier de la région parisienne, organisée par des militants de la CGT, a permis à plusieurs centaines d'entre eux d'arracher une carte de séjour. En se défendant collectivement sur le lieu de travail, en faisant pression sur les employeurs, les grévistes ont montré qu'ils étaient des travailleurs avant d'être des sans-papiers. Les grévistes ont appris à s'organiser eux-mêmes, à contrôler leur grève, en éditant par exemple des cartes de grévistes. Ils ont montré que le combat pour leur régularisation était un combat qui concernait l'ensemble des travailleurs. Supprimer aux patrons du BTP, du nettoyage ou de l'intérim ce moyen de chantage pour aggraver l'exploitation, c'est réduire un peu la concurrence des ouvriers entre eux et la division infinie du prolétariat dont parlait Engels. Finalement, c'est améliorer le rapport de force en faveur de l'ensemble des travailleurs. Les travailleurs qui ont fait grève pour leur carte de séjour à Paris font partie de la fraction la plus exploitée de ce pays. Mais l'ingéniosité et la rapacité de la classe capitaliste étant sans limite, elle trouve toujours le moyen d'aggraver cette exploitation. Et l'on trouve parfois en Europe des conditions de travail qui sont la règle en Chine ou à Haïti. Le drame survenu le 1er décembre dernier à Prato, près de Florence, au cours duquel 7 ouvriers chinois sont morts dans l'entrepôt qui leur servait d'atelier, de dortoir, de cantine, montre que les bagnes industrielles du textile ne sont pas l'apanage du Bangladesh. Dans cette ville de Toscane, capitale italienne de la confection, plus de 20 000 ouvriers chinois venus de la région de Wenzhou triment 12 à 14 heures par jour pour fabriquer des vêtements pas chers étiquetés « Made in Italy ». Ils gagnent moins de 800 euros par mois et doivent rembourser le réseau qui les a fait venir en Italie. Oh, il existe des ateliers clandestins dans bien d'autres villes d'Europe, à commencer par Paris. Si des patrons chinois exploitent ces travailleurs, ce sont les grandes marques européennes qui les font travailler en sous-traitance. Dans sa course permanente à la baisse des coûts, la bourgeoisie européenne a délocalisé une partie de sa production dans des pays où le prolétariat est obligé d'accepter des salaires plus faibles. Mais d'autres patrons trouvent finalement plus simple de faire venir en Europe des prolétaires asiatiques ou africains pour les exploiter dans les mêmes conditions qu'en Chine. Ces prolétaires sont nos frères, pas nos concurrents. Un peu partout, des journaliers agricoles triment avec des conditions pas plus enviables. En Andalousie, ils ramassent 10 à 12 heures par jour, sous des serres où la température peut atteindre 50 degrés, dans une atmosphère chargée de pesticides, les centaines de milliers de tonnes de fraises ou d'autres fruits et légumes exportés dans toute l'Europe. Ces travailleurs, venus du Maroc, de l'Équateur, de Colombie et plus récemment de Pologne et de Roumanie, sont logés dans des baraquements insalubres, sans eau courante, sans électricité, sans sanitaire. Leurs salaires sont régulièrement revus à la baisse, dans la pression des groupes de la grande distribution qui contrôlent toute la filière agricole, enfin agroalimentaire, tirent les prix vers le bas. Dans le sud de l'Italie, à Nardo, des saisonniers exploités dans des conditions similaires se sont mis en grève en juillet 2011. Dans cette région, des milliers de travailleurs africains, mais aussi roumains ou polonais, viennent chaque année ramasser des agrumes, des pastèques et des tomates. Ceux de Nardo se sont mis en grève pour, je cite, « de vrais contrats de travail, l'augmentation du prix du cajot, l'abolition du système des caporalis, l'ouverture d'une agence pour l'emploi dans le campement, la mise à disposition de moyens de transport et de médicaments ». Les caporalis, ce sont des intermédiaires qui recrutent les ramasseurs, prélèvent leurs commissions jusque sur l'eau à boire et qui font régner la terreur. Les grévistes avaient réussi à vaincre la peur des représailles. Comme l'exprima si bien un jeune Camerounais venu ramasser les fruits pour payer ses études à Turin, « Tous les travailleurs du monde ont droit à un contrat, et tout ce qu'il existe de beau en ce monde a été obtenu en manifestant et en luttant. » En Grande-Bretagne, les caporalis s'appellent des gangmasters, mais ils exploitent tout aussi férocement les immigrés illégaux qu'ils mettent à la disposition des propriétaires dans l'agriculture ou dans l'industrie agroalimentaire. C'est à l'occasion de drames comme celui de la baie de Morecambe en 2004, où 23 migrants chinois sont morts, noyés, en ramassant des coquillages pour leur patron, que le voile se lève un peu sur le sort de ces quelques 100 000 travailleurs de l'agroalimentaire en Grande-Bretagne. En France, les conditions de travail des saisonniers dans l'agriculture ne sont pas meilleures. Les exploitants disposent en toute légalité d'une main-d'œuvre corvéable à merci. Il s'agit des contrats immigrés saisonniers, délivrés par l'Office des migrations internationales, qui obligent le travailleur à rentrer chaque année dans son pays, au moins 4 mois sur 12. S'il ose protester contre ces conditions de travail ou d'hébergement, aussi indignes l'une que l'autre, il n'est pas repris l'année suivante. Les abus sont multiples. Même après 10 ou 15 ans de travail chez le même employeur, il ne peut prétendre ni à un CDI, ni à une carte de séjour permanente. Malgré ces pressions, des travailleurs en contrat OMI ont déposé des plaintes et se sont mis en grève ces dernières années, dans la plaine de la Croix, dans les Bouches-du-Rhône. Ils ne veulent plus être logés comme des animaux et exigent que leurs heures supplémentaires soient payées. Le sort des saisonniers agricoles rappelle l'exploitation subie par des millions de prolétaires sur les plantations de bananes, d'oranges ou de café, sous diverses latitudes à diverses époques. Mais elle se déroule ici et maintenant. Et cette exploitation n'est pas réservée aux travailleurs immigrés les plus récents, les plus précaires. En Italie, certains des grévistes de Nardo avaient travaillé dans les usines du Nord avant d'être jetés au chômage. Ceux-là avaient peut-être des papiers. Mais faute d'emploi dans une usine au Nord, ils se sont fait embaucher comme saisonniers dans le Sud, avec les conditions que je viens de décrire. Le fait que ces travailleurs aient été en contact avec des militants ouvriers dans les usines du Nord a sans doute compté dans le fait qu'ils se soient mis en grève. Mais il indique aussi que cette exploitation féroce des travailleurs venus d'Afrique ou d'Asie, menace l'ensemble des travailleurs. Un des moyens plébiscités par le patronat pour baisser les salaires et aggraver l'exploitation est le recours aux travailleurs détachés. Ces travailleurs, souvent polonais, roumains, portugais ou espagnols, mais aussi français, sont détachés en toute légalité par leur entreprise en France, en Allemagne ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Selon une directive européenne de 1996, ces travailleurs sont soumis au droit du travail en vigueur dans le pays où ils sont détachés. Ils doivent en principe toucher le salaire minimum, quand il existe, mais leur employeur paie les cotisations sociales selon les critères du pays d'origine, a priori plus favorables. Au fil des ans, ce dispositif s'est répandu dans le BTP, l'agroalimentaire, l'industrie et plus généralement le travail temporaire. Par le recours à des agences d'intérim spécialisées, installées dans des pays où les cotisations sociales sont faibles, sinon inexistantes, les donneurs d'ordre économisent beaucoup d'argent. Il y aurait 1,5 million de travailleurs détachés en Europe, entre 200 et 300 000 en France, encore davantage en Allemagne, et ces chiffres, déjà sous-évalués, explosent ces dernières années. Craignant que le sujet empoisonne la campagne des élections européennes, comme la polémique du plombier polonais avait plombé le référendum sur la Constitution européenne en 2005, Hollande et Merkel se sont enorgueillis d'avoir arraché aux pays récalcitrants un meilleur encadrement de cette directive. Ils prétendent renforcer les contrôles dans le pays d'accueil. Ils voudraient faire croire à leurs électeurs que ce dumping social, comme l'appelle Michel Sapin, le ministre du Travail, serait imposé par l'Europe au détriment des législations nationales, voire contre la volonté des entreprises françaises. Quelle bande d'hypocrites ! Les patrons français et allemands sont les premiers à exploiter ces travailleurs. Le secteur du BTP est celui qui embauche le plus grand nombre de travailleurs détachés, avec des conditions de travail et de sécurité déplorables. Plusieurs travailleurs détachés sur l'immense chantier de la centrale EPR de Flamanville, dont le maître d'ouvrage est Bouygues, ont perdu la vie depuis 2 ans, sans parler des dizaines d'autres accidents. Et selon un rapport du ministère du Travail rendu public en novembre, sur les 210 000 travailleurs européens détachés, officiellement recensés en France, 18 000 seraient des Français inscrits dans des sociétés d'intérim du Luxembourg où les cotisations sociales sont plus faibles. À l'automne dernier, quand les patrons des abattoirs bretons annonçaient des licenciements massifs, ils invoquaient la concurrence déloyale des abattoirs allemands qui recourent massivement à des travailleurs détachés. Et c'est vrai que des bouchers polonais, roumains, parfois espagnols, abattent des porcs et des poulets dans des abattoirs de Basse-Saxe pour 3 à 5 euros de l'heure pendant 10 à 12 heures par jour. En Allemagne, plus de 80% des travailleurs de l'industrie de la viande sont détachés ou intérimaires. Mais les abattoirs français ont exactement les mêmes pratiques. Le directeur d'un abattoir de Lamballe, dans les Côtes d'Armor, reconnaissait en 2011, devant des journalistes du Monde diplomatique, « Nous travaillons déjà avec 15 sociétés d'intérim françaises, et cela ne suffit pas. Nous souffrons de la mauvaise image du travail dans les abattoirs. Et donc, oui, nous faisons parfois appel à des étrangers. » Si le travailleur détaché est officiellement payé au SMIC, les agences retiennent souvent sur leur salaire des déductions correspondant au logement, au coût du transport entre le pays d'origine et la France. Et en guise de logement, comme en témoignent des militants syndicaux qui se battent aux côtés de ces travailleurs, je cite, « Ils vivent à 6 ou 7 dans la même maison, et l'employeur ponctionne pas mal pour ça. Ils n'ont pas de quittance de loyer, parce que c'est l'employeur qui paye. Ils ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire, parce que les fiches de salaire restent en Roumanie. Et ils ne peuvent pas s'installer en France, s'ils le veulent, parce qu'ils n'ont aucun papier officiel. L'employeur les tient comme ça. » Après la réunion européenne, Michel Sapin déclarait sur un ton guerrier « Je commencerai dès cette semaine à mettre en œuvre les outils juridiques et les moyens humains permettant de lutter contre ces fraudes. Je peux vous dire que ça se verra. » Mais qu'est-ce qui l'empêchait jusqu'alors de mettre en œuvre ces contrôles ? Tout simplement le respect des intérêts patronaux, à commencer par les plus grands qui profitent pleinement de ce système. Malgré les rodomandades de Sapin, il en sera des contrôles sur les travailleurs détachés, comme il en est sur les saisonniers dans l'agriculture, sur les intérimaires dans l'industrie, et plus généralement sur le respect par les patrons de toutes leurs obligations imposées par le Code du travail. La déclaration de Sapin est d'autant plus hypocrite qu'année après année, le gouvernement réduit les effectifs et les prérogatives des inspecteurs du travail à tel point qu'ils ont fait grève en novembre contre cette dégradation. Le seul contrôle réellement efficace, c'est celui exercé par les travailleurs eux-mêmes. Si Sapin avait la moindre sincérité quand il affirme vouloir lutter contre les fraudes, il commencerait par faciliter le contrôle par les travailleurs des contrats de travail signés par les patrons avec tel ou tel prestataire. Mais il est bien trop servile à l'égard du patronat pour cela. Heureusement, les travailleurs n'ont pas attendu l'intervention du ministère du Travail pour se défendre. À plusieurs reprises, dès 2003, les travailleurs indiens, grecs ou polonais, employés par des sous-traitants des chantiers navals de Saint-Nazaire, ont fait grève pour réclamer le paiement des heures qui leur étaient dues ou pour dénoncer les conditions de logement insalubres qu'on leur imposait. Ces travailleurs étrangers ont trouvé dans leur lutte le soutien des militants et des travailleurs des chantiers. ce soutien est normal, élémentaire. Un peu partout, des restaurants de l'agglomération parisienne au camp de saisonniers à Nardo en Italie, les travailleurs les plus exploités trouvent la solidarité de militants. Qu'ils soient syndicaux, associatifs ou humanitaires, qu'ils soient mus par leur révolte face à l'exploitation, par leur humanisme, voire par leurs convictions religieuses, ces militants consacrent leur énergie à la défense de travailleurs sans papier et à la lutte contre les expulsions. Ce sont des militants dévoués, souvent courageux, dont le combat est utile. Nous nous retrouvons bien souvent à leur côté, car des objectifs comme « non aux expulsions » ou encore « des papiers pour tous les sans-papiers » sont justes. Mais la solidarité et le combat pour la seule régularisation, s'ils sont nécessaires, sont insuffisants. Tout comme est insuffisant et vain le combat pour obtenir une meilleure directive pour encadrer le détachement des travailleurs ou une meilleure loi pour réglementer le droit du travail. Tant que l'exploitation capitaliste elle-même n'aura pas été supprimée, et à plus forte raison dans cette période de crise aiguë, le patronat ne cessera de mener la guerre de classe. La bourgeoisie ne cessera de jouer avec les frontières, délocalisera telle production dans un pays plus pauvre, ou, au contraire, fera venir des travailleurs des quatre coins de la planète pour les exploiter ici en baissant les salaires de tous. C'est le propre du capitalisme depuis sa naissance et ça le restera jusqu'à sa disparition. Pour un patron, qu'il soit embauché en CDI, intérimaire, contractuel, sous-traitant, autochtone ou étranger, tous les travailleurs sont des détachés potentiels. Ils sont tous des migrants en puissance, des nomades obligés par la pression du chômage de se déplacer d'une entreprise à une autre, d'une région ou d'un pays à un autre. Entre les travailleurs enfermés dans les ateliers clandestins, les saisonniers surexploités de l'agriculture, les travailleurs détachés et les travailleurs autochtones, il n'y a pas de frontières, il y a une continuité. Dans cette jungle capitaliste, où le patronat invente sans cesse de nouvelles méthodes pour tirer les salaires vers le bas et aggraver sans cesse l'exploitation, le sort de tous est lié. C'est pourquoi il est vital que le mouvement ouvrier renoue avec les perspectives internationalistes de ses origines. Quand le manifeste communiste proclamait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ce n'était pas seulement pour lutter contre la concurrence et les divisions entre les travailleurs. Le manifeste proclamait que les travailleurs devaient conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante pour faire disparaître les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples. Pour Marx et Engels, la classe ouvrière n'était pas seulement une classe souffrante et opprimée. Pour eux, c'était une classe combattante qui devait prendre la direction de toute la société, puis organiser la production de façon socialisée et planifiée à l'échelle de la planète. Le développement du capitalisme rendait possible et indispensable cette planification. La classe ouvrière se renforçait au fur et à mesure que la production capitaliste embrassait de nouveaux secteurs productifs et de nouveaux pays. Ce brassage international fut une condition de la naissance des idées socialistes. Ce fut ensuite le meilleur facteur de leur diffusion. Le manifeste communiste lui-même est né de la rencontre entre des artisans allemands émigrés à Paris et à Londres et deux intellectuels nourris des idées philosophiques de leur époque et des premières expériences du mouvement ouvrier. La première internationale, on l'a vu, a été fondée pour s'opposer à la concurrence et aux divisions engendrées par le patronat. Mais elle devint, sous la direction politique de Marx, un instrument pour homogénéiser et propager les idées socialistes dans toute l'Europe et même jusqu'en Amérique. Les idées suivaient les routes de l'immigration. Poussés par la répression ou par les nécessités économiques, des milliers de militants socialistes emportaient leurs idées d'Europe vers les États-Unis, de Belgique ou d'Allemagne vers la France et la Grande-Bretagne, et vice-versa. En poussant des millions de paysans de toutes les nationalités à migrer vers les grands centres industriels en plein essor, le développement du capitalisme, entre 1870 et 1914, permit la diffusion des idées et le développement des partis socialistes. les ouvriers polonais, bulgares, roumains, espagnols, italiens, émigrés à Paris et plus encore à Berlin, découvrirent ainsi les idées socialistes. Ces travailleurs ne rencontraient pas seulement des œuvres de charité ou de bienfaisance pour leur trouver un toit ou pour nourrir leurs enfants. Ils rencontraient des militants politiques qui leur transmettaient les traditions de lutte, la fierté d'être ouvriers et d'appartenir par-delà les frontières à une même classe ouvrière, celle qui produit toutes les richesses. Les militants socialistes combattaient les particularismes, les préjugés, les divisions religieuses et les idées réactionnaires de toutes sortes. Ils opposaient le drapeau rouge et la journée du 1er mai au patriotisme. L'intégration se faisait en luttant tous ensemble pour la journée de 8 heures ou pour de meilleurs salaires. À cette époque, la mondialisation de l'économie, avec les vastes migrations de prolétaires qu'elle engendrait, et l'industrialisation de pays jusque-là arriérés, n'était pas considérée par le mouvement socialiste comme une faiblesse, mais comme une force. La délocalisation de plusieurs dizaines d'usines allemandes ou françaises en Russie n'était pas une menace. Elle allait permettre la naissance d'un prolétariat russe qui, 20 ans plus tard, prendrait le pouvoir. L'émigration facilitait la construction des organisations ouvrières dans de nouveaux pays. Le Parti social-démocrate allemand, ce parti qui organisa plusieurs centaines de milliers d'ouvriers dans ses rangs, joua un rôle décisif dans la création des partis socialistes en Europe centrale et orientale. Ce parti fut non seulement l'ossature de l'Internationale socialiste, mais il soutint matériellement et financièrement de nombreux partis socialistes réprimés, à commencer par le Parti ouvrier social-démocrate russe. Il accueillit dans ses rangs les militants contraints à l'exil par la répression. Il hébergea leurs imprimeries clandestines, embaucha leurs publicistes. Tout cela fut facilité par les liens de dépendance que le capitalisme allemand avait imposés à ces pays. Il est significatif que la polonaise Rosa Luxembourg ait été à la fois une fondatrice du Parti social-démocrate de Pologne et une dirigeante de la social-démocratie allemande. Il est significatif que le russe Trotsky ou le roumain Rakovski et tant d'autres militèrent à part entière dans plusieurs partis socialistes d'Europe au gré de leurs exils forcés. Les uns et les autres ne concevaient la lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie qu'à l'échelle mondiale. Mais l'enrichissement extraordinaire de la bourgeoisie des principaux pays impérialistes, grâce au pillage colonial, grâce aussi au travail de ses immigrés, lui donna les moyens de corrompre une fraction de la classe ouvrière, la plus qualifiée, la mieux organisée, la plus ancienne. Celle-ci vit une amélioration spectaculaire de son niveau de vie, tandis que les plus fraîchement immigrés, les travailleurs, subissaient toujours la pire exploitation. Les forces dissolvantes du capitalisme étaient à l'œuvre, suscitant le corporatisme et le réformisme. Une partie des organisations ouvrières représentait de plus en plus les intérêts de la seule aristocratie ouvrière, en excluant largement les plus opprimés, dont les étrangers. Ces forces souterraines se révélèrent au grand jour en 1914. Quand éclata la Première Guerre mondiale, les principaux dirigeants du mouvement ouvrier s'alignèrent derrière leurs bourgeoisies respectives, sombrant dans le chauvinisme le plus crasse. La défense de la patrie remplaça l'internationalisme. En se ralliant à leur bourgeoisie, les dirigeants du mouvement ouvrier abandonnaient la perspective du renversement du capitalisme et rompaient la solidarité de classe entre les travailleurs de tous les pays. Avec l'éclatement de la révolution russe et la vague révolutionnaire qui secoua l'Europe, jusqu'à menacer la bourgeoisie allemande de perdre le pouvoir, le drapeau de l'internationalisme fut repris par les militants communistes qui fondèrent la Troisième Internationale. Se plaçant dans les pas des deux premières, la Troisième se considérait comme un parti communiste international dont la tâche était de renverser à brève échéance le vieil ordre social pour constituer une république soviétique internationale. Les militants communistes n'avaient pas d'autre patrie que cette république soviétique à construire. En France, le Parti communiste dénonça l'occupation de la Roure en 1923, la guerre du Rif au Maroc en 1925. Il se préoccupa d'organiser les travailleurs étrangers, en particulier coloniaux. Il édita des tracts et des journaux dans leur langue, à une époque où tous les autres partis défendaient la colonisation. Mais cela ne dura pas. Après plusieurs années où la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie fut aiguë, et malgré la victoire de l'État ouvrier en Russie, obtenue au prix d'une guerre civile et de sacrifices inouïs, le mouvement ouvrier subit une nouvelle défaite. Ce fut la victoire en Union soviétique, puis dans toute l'internationale, du stalinisme. Le stalinisme introduisit au sein du mouvement ouvrier, outre des méthodes de gangsters, un profond opportunisme. Il frelata toutes les idées. L'internationalisme fut remplacé par le socialisme dans un seul pays, c'est-à-dire la défense exclusive des intérêts de la bureaucratie au pouvoir. Dans les autres pays, les partis communistes aidèrent la bourgeoisie à sauvegarder son pouvoir. Même quand ils s'appuyaient sur les convictions internationalistes de leurs militants, par exemple en constituant des brigades internationales pour combattre le franquisme en Espagne, c'était pour défendre une politique contre-révolutionnaire. Combien de militants communistes ou antifascistes venus de toute l'Europe, échappés des camps d'internement français, allèrent jusqu'à s'engager dans la résistance pour y mener la politique chauvine que l'humanité résumait en août 1944 par le slogan « À chacun son Bosch ». Dans les années suivantes, les dirigeants du PCF exhortaient les travailleurs à retrousser les manches pour reconstruire l'industrie nationale. En renonçant à contester le pouvoir de la bourgeoisie, les partis socialistes puis communistes ont distillé à leur tour le poison de la division entre les travailleurs. Le Parti socialiste est devenu au fil du temps et de ses passages au pouvoir un parti bourgeois comme les autres. Sous Hollande et Valls, il a fini par abandonner jusqu'au vernis humaniste qui le distinguait encore de la droite sur les questions de l'immigration. Quant au Parti communiste, durant toutes les années où il représentait une force dans la classe ouvrière, où il obtenait les suffrages des travailleurs et dirigeait les principaux syndicats, il fut un facteur de stabilisation de l'ordre bourgeois. Il a obscurci la conscience des travailleurs avec des positions nationalistes. Il s'est opposé au marché commun, puis à l'Union européenne, avec des arguments réactionnaires, comme ceux de Charles Fitterman, alors dirigeant du PCF, futur ministre de François Mitterrand, qui disait en 1978 « Nous nous opposons catégoriquement à l'idéologie bourgeoise sur le dépassement du cadre étroit de chaque nation. » Avant d'ajouter « Notre orientation est claire. Nous combattons sans ambiguïté la politique d'intégration européenne qui accentue la régression sociale et amputerait le patrimoine national. » Ou d'autres propos carrément xénophobes, comme cette affiche destinée aux petits viticulteurs du Languedoc. Je cite « La Grèce et l'Espagne dans le marché commun, c'est pire que le phylloxéra. » Combien d'affiches du PCF qui proclamaient dans les années 1980 « Produisons français » ont été taguées avec le petit rajout « Avec des Français ». Le PCF a lui-même établi un lien entre le chômage et l'immigration. Il écrivait par exemple dans le programme de son congrès en 1991 « Je cite, il est de l'intérêt commun des travailleurs immigrés comme des travailleurs français, alors que le chômage prend des proportions considérables, d'arrêter toute immigration nouvelle. Le droit au regroupement familial, qui doit être garanti, devant être maîtrisé et contrôlé afin qu'il n'entraîne pas une immigration illégale. Toutes ces positions nationalistes ont préparé le terrain sur lequel prospère l'extrême droite. Si le Front national peut aujourd'hui apparaître, aux yeux d'une fraction des travailleurs, comme un parti susceptible de défendre leurs intérêts, c'est d'abord parce que la classe ouvrière a été démoralisée et écœurée par les passages successifs de la gauche au gouvernement, avec le soutien des syndicats. C'est ensuite parce que les esprits ont été préparés par les dirigeants des partis de gauche, qui se placent eux aussi sur le terrain de la défense des Français et de la nation. Du PCF au front de gauche, ils accusent régulièrement l'Union européenne, quand ce n'est pas l'Allemagne, d'être responsable de tous les maux. Le capitalisme a réalisé le brassage des travailleurs du monde entier. Il les a soudés dans un sort commun Il a transformé la planète en une seule et unique entité économique où toutes les régions sont interdépendantes. Ce processus s'est considérablement amplifié depuis l'époque, il y a 75 ans, où Trotsky soulignait la contradiction entre l'ère de l'aviation, du téléphone et de la télévision et l'existence de frontières infranchissables sans passeport ou visa. Les progrès dans les moyens de transport et de communication ont encore accéléré la mondialisation de l'économie. Cette mondialisation n'est pas à combattre. Elle est à la base des idées communistes. Pour les fondateurs du marxisme, c'était précisément l'extension irréversible du mode de production capitaliste par-dessus les frontières, la transformation d'une multitude de marchés locaux étriqués en un vaste et unique marché mondial qui rendait possible le communisme. L'internationalisme et le communisme sont intimement liés. L'internationalisme prolétarien, ce n'est pas seulement la solidarité vis-à-vis des travailleurs durement exploités dans tel ou tel pays. Ce n'est pas seulement la fraternité entre les peuples. C'est la conviction profonde que la classe ouvrière mondiale forme un tout. Les ouvriers cambodgiens du textile, les matelots pakistanais qui pilotent les porte-conteneurs ou les employés de la grande distribution en France ont les mêmes adversaires, les mêmes intérêts, le même avenir. La lutte de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie se déroule à l'échelle de la planète. Et c'est à cette échelle que le capitalisme peut être combattu, car c'est à l'échelle de la planète qu'une organisation supérieure des forces productives est possible. C'est seulement à l'échelle internationale que l'on pourra gérer de façon rationnelle l'économie, qu'on pourra adapter les capacités de production aux besoins de toute l'humanité, qu'on pourra satisfaire l'ensemble de ses besoins sans épuiser les ressources ni détruire la nature. Même dans le cadre de l'économie capitaliste, le morcellement national est depuis plus d'un siècle un frein au développement des forces productives. La division de la planète en une poignée de puissances impérialistes concurrentes a déjà provoqué deux guerres mondiales et continue d'entretenir depuis 70 ans les crises, les guerres et la barbarie. Si la mondialisation capitaliste aggrave toutes ces divisions et toutes ces inégalités, la bourgeoisie a une conscience aiguë des possibilités qu'elle lui offre. Elle sait jouer sur les différences de salaire ou de coûts de production. Elle sait déplacer les prolétaires ou les usines selon les périodes ou les rapports de force. Mais les organisations qui prétendent représenter les travailleurs n'ont pas cette conscience. Même quand elles affirment lutter contre la dégradation permanente des conditions d'existence des travailleurs, elles mettent en avant des revendications opposées aux intérêts de la classe ouvrière. Parce qu'elles n'ont pas cette perspective internationale, parce qu'elles ont renoncé à renverser le capitalisme et cherchent à défendre des acquis à l'échelle nationale, ces organisations sont devenues profondément réactionnaires. Les directions syndicales, les partis qui visent l'électorat ouvrier, le PCF ou le Front de Gauche, les altermondialistes de diverses obédiences, font tous du protectionnisme un rempart contre la mondialisation qu'ils présentent comme un ennemi. Ils se veulent les champions de l'industrie nationale. Ils s'arc-boutent derrière des frontières et des États, alors même qu'ils sont dépassés, y compris dans le cadre du capitalisme. La classe ouvrière doit renouer avec les perspectives ouvertes par le manifeste communiste. Elle doit s'ériger en classe dirigeante pour contester à la bourgeoisie la direction de la société. Cela n'est possible et n'a de sens qu'à l'échelle de la planète. L'unité de tous les travailleurs ne se créera ni par des discours humanistes, ni par des leçons de morale, mais par des combats communs contre leurs exploiteurs. C'est au cours de combats communs qu'émergera la conscience qu'ils forment un tout et qu'ils ont à se battre ensemble pour se libérer. C'est au cours de ces combats que les travailleurs apprendront que pour se libérer, ils doivent arracher à la bourgeoisie le contrôle des moyens de production pour les mettre au service de tous. C'est la seule façon de mettre un terme à ce développement si inégal, si chaotique, qu'ils jettent des millions de femmes et d'hommes sur les routes, sur les mers ou dans les airs pour tenter leur chance ailleurs. C'est la seule façon de mettre un terme à la crise qui transforme tous les travailleurs en migrants potentiels et qui menace toute la planète de la barbarie. Les frontières, les papiers et les visas seront alors aussi caduques et incompréhensibles que les notions même d'étrangers et d'immigrés. Chacun pourra dire « Mon pays, c'est la terre » et ma patrie, l'humanité. »